vous êtes toujours à l'écoute du RESF hein, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et donc, je le disais tout à l'heure, hein, Mehdi Dimpré et Adèle. Donc Mehdi, tu arrives de Calais. Adèle, bah, tu es, je crois, entre Calais et Paris.
Paris.
Et donc tu vas nous parler de Calais. Et on le disait tout à l'heure, on le redit maintenant, hein, c'est que y a beaucoup de gens qui font l'aller-retour entre Calais, le Ménil-Amelot, Calais. Enfin bon, c'est.
Oui.
Alors, si tu peux parler à.
J'aimerais bien revenir juste un moment sur ce qu'on vient d'écouter. Il y a des choses intéressantes qui ont été. Bon, tout était intéressant. Moi, j'ai remarqué que, effectivement, à partir de 2015, on a commencé à avoir de plus en plus d'Afghans dans les centres de rétention et peut-être un peu moins avant. C'était ça l'idée.
Oui, c'était exact.
Oui. Bah oui. Et en fait, c'est un peu finalement à la même date aussi que certains ont pris conscience de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes la crise migratoire. Parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas de 2015. Et finalement, à partir du moment où il y a une prise de conscience de ça, c'est aussi à partir de ce moment-là qu'a eu lieu peut-être aussi plus d'arrestations, je trouve. Alors, avec des accords, bien sûr, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression que pour certains, ce qu'ils appellent cette crise migratoire, qui pour moi n'est pas une crise, mais enfin bon, ce qu'ils appellent une crise migratoire, est apparu en 2015-2016. Mais finalement, avant, on en parlait beaucoup moins. En tout cas, à Calais, on en parlait beaucoup, forcément.
Oui, voilà. Ça, c'est...
Mais ailleurs, peut-être un peu moins. Ou bon, parce que des gens de l'extérieur étaient venus à Calais ou dans d'autres campements aux alentours et voilà, avaient connaissance des choses. Mais je trouve que quand même, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de choses qui ont été faites. Alors en négatif comme en positif, hein, ça dépend de quel côté on se situe. À partir de 2015, c'est vrai qu'on a multiplié les arrestations, mais on a aussi pris finalement cette conscience-là d'une, je dis toujours ce qu'ils appellent, la crise migratoire.
Effectivement, je pense que c'est même au niveau des dates, on parlait de cet accord. Moi, je parlais du point de vue de la rétention, où effectivement, cette nationalité-là était rarissime jusqu'à un certain moment, il y a un an et demi. Mais rien qu'en regardant les dates, effectivement, l'Union européenne ne s'est pas subitement réveillée en 2016. C'est qu'à mon avis, il y a eu une prise de conscience, comme tu dis, qui a entraîné des effets, dont la signature de cet accord. L'Europe étant ce qu'elle est, l'Allemagne est l'un des pays qui est d'ailleurs très. Ils ont une certaine transparence, je dirais, sur cette question, puisque dès la fin de l'année 2015 ou en 2016, les autorités allemandes avaient procédé à une campagne d'affichage dans Kaboul. Il y avait une campagne sur Facebook pour inciter les jeunes demandeurs d'asile afghans, qui sont pour la plupart, pour l'énorme majorité, comme Yves disait, des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, les inciter à rester là-bas. Et l'Allemagne étant le pays qui a accueilli à peu près 1 million de réfugiés en 2015-2016, on ne peut s'empêcher effectivement de voir une sorte de cause à effet entre cet événement-là ou ces circonstances-là et le fait de dire alors quelle nationalité on pourrait faire, sur laquelle on pourrait peser pour essayer de diminuer le nombre de personnes accueillies. Et malheureusement, alors je cherche toujours la raison exacte, mais ce sont ces ressortissants afghans qui se sont retrouvés dans la ligne de mire, voilà. Non, mais oui, je crois que c'est effectivement le problème. L'Afghanistan est un pays en guerre depuis plusieurs décennies. Ça n'est pas nouveau, effectivement, qu'il y ait des personnes qui fuient l'Afghanistan, mais l'ampleur qu'il y a aujourd'hui est liée au fait qu'à un moment, oui, il y a une prise de conscience.
Et puis, bon, donc tu nous as bien expliqué, rappelé ce qu'était plus ou moins la loi Dublin. Mais là, maintenant, on va beaucoup plus loin. C'est qu'on pourrait être amené, par exemple, à proposer, à exiger un départ d'une personne ayant mis un pied dans un pays sûr pendant son parcours, même si ce pays n'est pas européen. J'explique, par exemple, un Soudanais qui est passé par la Tunisie. La Tunisie est considérée comme pays sûr, donc cette personne pourrait, sans que sa demande puisse être traitée, analysée ici, être envoyée en Tunisie. Et ça, ça bafoue complètement le droit d'asile quand même. Enfin...
C'est complètement contraire au... Ouais. Mais tout dans cette histoire, de toute façon, qu'on revient systématiquement au droit d'asile, effectivement, dans le projet de loi, une énième réforme du droit français sur l'immigration et l'asile qui nous tombera dessus début 2018. Il est effectivement question de faire rentrer dans le droit français cette notion de pays tiers sûr. Et là, on sort de l'Europe, comme tu dis, c'est qu'effectivement, on va aller demander à des pays hors Union européenne de fixer les personnes qui cherchent une protection sur leur territoire et d'éviter que ces personnes arrivent sur le territoire européen. Ce sera une nouveauté pour la France, mais ça ne l'est pas pour plein d'autres pays européens qui ont déjà commencé à signer des accords bilatéraux dans ce sens-là. Et c'est ce que dénonce le réseau Migre Europe depuis des années, c'est cette capacité que l'Europe a de repousser ses frontières de manière quasi infinie, plus loin que ses limites géographiques. Et effectivement, ça contrevient au principe de non-refoulement, ça contrevient à l'essence même du droit d'asile qui consiste à aller solliciter une protection dans un pays qui peut apporter une protection telle que celle-là. Je ne suis pas sûr que la Tunisie ait les mêmes moyens que la France pour protéger les réfugiés. Et oui, tout ça est très problématique pour...
Oui, et ces annonces quand même qui viennent donc de une dépêche de l'AFP sur la réforme du droit d'asile, il faut quand même être très prudent sur ces annonces parce que cette réforme, on ne la connaît pour l'instant, on sait qu'elle va être terrible, hein, mais on ne la connaît pour l'instant que par une dépêche de l'AFP et on peut supposer, personne d'autre, à ma connaissance, hein, personne d'autre que l'AFP n'a vu l'avant-projet de la réforme. Donc on peut supposer que c'est une fuite organisée par le ministère de l'Intérieur. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on dit certains et je trouve ça tout à fait intéressant.
Oui, c'est sûr, oui, c'est intéressant. C'est bien pour ça que j'ai dit « pourrait être voilà, amené à hein, ». Mais bon, j'en serais finalement pas étonné.
Peut-être que ce sont des choses qui sont... amener qu'on a prévu des choses un petit peu différentes et pour négocier ou c'est en tout cas il y a une fuite du ministère de l'Intérieur qui est passée par un des canaux officiels de l'État. Oui. Et donc oui, mais dis je.
Alors des nouvelles de Calais. Alors bon, pour faire bref, puisqu'on a déjà discuté 20 minutes sur le sujet, le 23 septembre, il y avait un rassemblement pour la paix qui a été donc dans un premier temps accepté par la sous-préfecture de Calais, puis en tout cas, il y a eu une tentative de déprogrammation de la mairie. Très rapidement, donc c'était un rassemblement festif avec de la musique, rien de... très grave en soi.
Et ce qui est intéressant, tu me pardonnes de te couper, mais que ce n'était pas un rassemblement particulièrement en soutien aux exilés qui étaient présents à Calais, même si la question était présente, puisque de toute façon, la question est omniprésente. Hein.
C'est ça. Alors, c'est vrai que la question était présente de par les armes de guerre qu'on a à Calais, parce que quand on se promène dans la rue et qu'on voit les forces de l'ordre armées avec des armes que j'ai jamais vues avant, c'est ce qu'on voit dans des films, c'est ce qu'on voit dans les reportages de guerre, mais c'est pas ce qu'on voyait dans les rues de Calais auparavant. Quand on voit les barbelés, quand on voit pour reprendre ton terme, ce qui est devenu Calais en tant que laboratoire humain, bon, alors ok, on n'est peut-être pas dans la guerre parce que il y a pas de bombes, mais en tout cas, toutes les armes de guerre y sont. Et nous, c'est ce qu'on a voulu dénoncer. Et de toute façon, mettre en lien quand même avec la cause des migrants, puisque tout est lié. Et très vite, donc, un élu de la mairie est venu, a commencé à arracher toutes les pancartes, alors que, je le répète, la sous-préfecture avait accepté le rassemblement. Les forces de l'ordre sont intervenues, il y a eu des interpellations, et donc des gens qui ont des procès en cours, en fait. Donc là, c'est un peu trop tôt pour en parler parce que de toute façon, les procès n'ont pas eu lieu et puis on en a déjà discuté la dernière fois. Mais voilà, c'est des tentatives d'intimidation les plus farfelues les unes que les autres. On va chercher des militants chez eux, on va les interpeller dans la rue, procéder à des contrôles d'identité en vous appelant par votre nom. Voilà, c'est que des tentatives d'intimidation et ça va jusqu'à la dissimulation de preuves également. Puisque lorsqu'un militant a voulu apporter des preuves au commissariat d'une histoire en cours, on lui a refusé ses preuves. Donc là aussi, il y a un autre procès en cours par rapport à ça. Enfin, on tente par tous les moyens de nous intimider, de nous faire taire. Le laboratoire, finalement, on se rend compte, nous, qu'il n'est pas seulement pour les exilés, mais qu'il est aussi pour nous. Ça, bah,
c'est une des choses qu'on fait aux exilés. On peut le faire après, on a vu que ça, comment ça fonctionne, on peut le faire auprès de n'importe qui. On est tous des exilés potentiels.
Oui, oui, c'est un laboratoire d'état policier, en fait, Calais. C'est un laboratoire tout court. Alors, j'aime bien dire ça parce que ça montre... On a toujours tendance à écouter, à entendre dire « Oui, mais vous l'avez cherché, c'est peut-être vous qui avez commencé. » Bon. On a des syndicats de police, si je ne me trompe pas, qui ont déposé plainte contre deux associations à Calais, dont l'Auberge des Migrants, pour diffamation suite à plus ou moins des posts Facebook ou des courriers, de toute façon, envoyés dénonçant le vol des couvertures, le fait de saccager des tentes, de les déchirer, de voler les chaussures. Voilà, donc on a des procès par rapport à ça. Et ça dépasse maintenant aujourd'hui le stade de militant ou de bénévole d'association, puisque hier j'ai pu lire un témoignage d'une dame qui n'est ni militante et ni membre d'association, qui postait des photos et qui discutait sur le fait d'avoir vu justement la police saccager des tentes. Donc là, ça dépasse vraiment... Enfin, voilà. Du coup, ça me fait dire qu'on arrête de dire « Oui, mais les militants, vous militez trop, et les bénévoles, ben, vous en faites trop. » Bon, là, cette dame, elle n'a rien demandé à personne, elle a juste constaté. Ce midi également, j'ai reçu un message de M. De Conin, qui est du Secours catholique à Calais, qui racontait une fois de plus. Alors c'est une pratique qui s'était qu'on avait un peu oublié à Calais. Enfin, à mon avis, ça ne se faisait plus trop. C'est une pratique qui était courante à la presse en gâte, de contrôler l'identité d'un exilé ou d'un groupe d'exilés, donc par la police, hein, et de se faire confisquer les chaussures et de devoir rentrer à pieds nus. Ça s'est passé encore apparemment cette nuit. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, de toute façon, ça s'est encore passé cette nuit. Donc voilà un petit peu les nouvelles de Calais. Alors, les nouvelles du centre de rétention de Calais, il n'y a pas vraiment de nouveautés. C'est toujours pareil, on vient d'en parler plus ou moins. Sauf que peut-être... alors, pour ceux qui utilisent Facebook, vous pouvez aller sur la page Paye ton droit, donc P-A-Y-E comme payer, paye ton droit. Ce sont des anecdotes, en fait, entendues lors de procès en centre de rétention. Alors, le centre de rétention à Coquel, donc juste à côté de Calais, c'est un cirque, mais bon, j'imagine que c'est un peu dans tous les centres de rétention. Pour en citer une qui me vient en tête comme ça, donc le juge qui demande à un exilé « Mais vous savez que vous aviez une OQTF et que vous deviez quitter le territoire et vous vous refaites arrêter et vous vous retrouvez une fois devant moi. Pourquoi vous n'avez pas quitté le territoire ?» L'exilé qui lui répond « Ben, j'ai essayé de quitter le territoire plus d'une fois, mais la police m'a toujours arrêté. » Bon, voilà. Mais c'est un cirque, vraiment, des commentaires de juges, d'avocats et puis d'agents de la PAF aussi assis derrière nous, des commentaires que nous, on n'a pas envie d'entendre et qu'on ne doit de toute façon pas entendre.
Et quand on parlait de la Calais Laboratoire, c'est que je crois que Calais a été un des laboratoires des salles d'audience décentralisées, comme on en voit un peu partout maintenant, où la salle d'audience se trouve quasiment à l'intérieur du centre de rétention.
Oui, directement dans... Enfin, Bon, il y a le centre de rétention, la cour du centre de rétention et la salle d'audience qui est collée à la cour, en fait. Donc, la cour qui est toujours vide, hein, entendons-nous bien, hein, c'est pas la cour de récréation. Oui, c'est complètement dans le centre de rétention. Oui.
Et sinon, donc, Calais, donc, il y a un an, il y a eu l'évacuation de ce qu'on a appelé médiatiquement la jungle, hein, qu'on préfère appeler le bidonville d'État, parce que la jungle... Ça veut dire autre chose, hein. C'est l'étymologie du mot, c'est pas la loi de la jungle, c'est justement les Afghans qui disaient I live in the jungle, donc j'habite dans je vis dans les bois. Et donc on a évacué 10 000 personnes, et aujourd'hui à Calais, il y a pas mal de gens qui y sont.
Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas une surprise. Tant que Calais sera Calais, tant que Calais sera situé géographiquement en face de l'Angleterre, on aura beau faire toutes les expulsions du monde possibles et inimaginables, on aura toujours la même situation. Donc, je pense que, je ne sais pas, en tant que maire, en tant que chef d'État, en tant que ministre... J'imaginais que c'était quand même des gens sensés et capables d'avoir de mener une réflexion bien aboutie. On se rend compte que à chaque élection, à chaque nouveau ministre, à chaque maire, à chaque on retrouve exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire on expulse, on cache et on fait intervenir des forces de l'ordre. Voilà. C'est systématiquement le même schéma, et c'est systématiquement le même schéma pour tout. Si on compare avec Noranfont, donc justement Noranfont qui a été évacué il y a quelques semaines maintenant.
Oui, il y a trois semaines. On a beaucoup parlé d'ailleurs la semaine dernière, et notre émission était consacrée à Noranfont.
Alors j'ai discuté avec Nansuel, que tu connais.
Bah, qui était à ce micro, enfin par téléphone la semaine dernière avec nous.
Et en fait, elle me disait ce matin, bon, Mehdi, je t'apprends rien, mais je vais quand même t'expliquer ce qui se passe. Et au final, elle avait raison, on aurait pu l'écrire avant. Alors pour rappel, donc, il y a eu le camp de Noranfont qui a été détruit. Des exilés qui se sont retrouvés dans un centre à Belleval, avec par contre des femmes et des couples mis en hôtel.
En hôtel, mais pas à Belleval, à Arras.
Non, à Arras, voilà. Et quelques temps après, donc très rapidement, sans examen de situation aucune, en gros, ça se résume gentiment, mais quand même, ça se résume à vous déposez vos empreintes ou vous devez partir. Donc, ils sont partis. Et puis, du coup, il y avait un centre de Belleval vide qu'on a comblé avec les femmes et les couples qui étaient donc placés dans des hôtels pour remplacer les places vides à Belleval. Et alors, il y a 2 jours, pas plus, enfin, 2-3 jours peut-être, on a dit à ces femmes et à ces couples la même chose. Donc, maintenant, vous déposez vos empreintes ou pas ? La réponse a été « et pas ». Donc du coup, ces gens ont été invités à quitter le centre de Belleval également. Et tout ce petit monde-là se retrouve dans un village voisin de Noranfont, en fait, dans un village voisin de Noranfont à Cairn, qui est à quelques minutes d'Isberg. Enfin, alors tout
dans,
ça, c'est pareil, c'était écrit d'avant. Oui, dans le terrain de Jacques. Ouais. Alors tout ça, c'était écrit d'avance. Enfin... Donc, quand Nansuel m'explique ça ce matin, je lui dis, mais bon... en gros, je lui ai vraiment dit ça. Je lui ai dit, tu sais, je t'ai posé la question un peu par courtoisie, mais bon, limite, si on n'en avait pas discuté, j'aurais pu le dire d'avance, quoi. Enfin, et c'est toujours la même chose. Et du coup, alors, on a dévié la situation, enfin, la conversation sur autre chose. Il y a eu, je crois que c'était au mois de juillet, une rencontre à l'Élysée avec plusieurs associations signataires. Donc, il y avait 12 représentants de ces associations qui sont allés réclamer, entre autres, alors je n'ai pas tout retenu, mais en tout cas un changement radical de politique et des liens de solidarité plus flagrants, une hospitalité et en tout cas l'arrêt de la violence. Et donc, suite à ça, on nous parle du plan Colomb, qui va pas du tout dans ce sens-là. Donc, il y a l'idée déjà qui est en train de germer d'organiser des états généraux différents et d'essayer encore une fois de réorganiser ces choses. C'est compliqué, mais au bout d'un moment, enfin, on le dit toujours depuis des années, mais on ne peut pas toujours refaire la même chose, refaire des démantèlements, recréer du drame, recréer de la pression, recréer un traumatisme encore. On ne peut pas faire ça encore. Donc, il va falloir forcer un peu plus les choses, peut-être.
Voilà, c'est ce qui se fait depuis 2002, et même avant, mais 2002, et avec l'évacuation du camp de Sangatte, avec toujours à peu près le même discours, on ne veut pas faire un point de fixation, mais on ne fait pas un point de fixation. On empêche si on laissait les gens passer, il y a combien de dizaines de milliers de personnes qui, chaque jour, prennent le ferry ou prennent le bateau ou prennent le train pour aller en Grande-Bretagne. Si on retenait tout le monde, je pense que Calais exploserait. Là, il y a un filtre, il y a des gens qui ne peuvent pas passer. Et on se retrouve maintenant, je crois que c'est quelque chose comme 700 personnes qui sont à Calais.
Ouais, environ.
Et les conditions, parce qu'on était arrivé à faire des conditions...
Ah bah, il n'y a pas de conditions du tout, là.
Qui n'étaient pas acceptables, mais avec quand même des choses qui étaient... où on pouvait dormir à l'abri, quoi, ou à peu près.
Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de conditions... Une personne qui arrive à attraper un duvet pour la nuit va se le faire confisquer la même nuit. Il n'y a pas d'hébergement du tout, il n'y a pas de tente. Enfin, bon, on en trouve quelques-unes de tentes, mais officiellement, il n'y en a pas. Et puis, voilà, se pose encore une fois. Alors, dans la série des choses qu'on pourrait écrire à l'avance, ce n'est pas le premier hiver que la France va connaître. Et à partir de quand on commence à organiser un réel plan grand froid, quand les températures seront à moins combien, voilà, ça ne choque personne au niveau mairie, préfecture, enfin. Et tous les ans, c'est le même scénario pourtant, on le sait. Mais au lieu de ça, on va plutôt mener des politiques de... effectivement, comme tu disais, Yves, on ne veut pas de point de fixation. Donc la méthode, c'est de prendre le duvet dès qu'on en voit un. C'est d'arracher une tente dès qu'on en voit une. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est tout des choses qui existent déjà depuis longtemps et qui se répètent tout le temps.
C'est des choses, on peut réécouter, par exemple, tous les... Le petit reportage que j'ai fait sur l'audioblog L'écho des jungles, qui n'est plus actif, mais on peut toujours les écouter. Les premiers témoignages que j'ai recueillis, ça devait être en 2009 ou en 2010, et c'était déjà ça.
Bah voilà.
C'était...
Alors, de la même manière, alors il y a l'Auberge des migrants qui a mené une étude récemment sur le... Alors, entre autres, pas que ça, mais sur la raison des exilés de vouloir absolument aller en Angleterre. Et on retrouve à plus de 90% Ah ben voilà, t'as l'étude sous les yeux. Alors, je la connais pas par cœur, mais à plus de 90%, on retrouve de toute façon... 92,5% précisément veulent demander l'asile en Angleterre. Pour les raisons qu'aujourd'hui, on connaît tous, c'est la langue, la famille, un proche qui y habite. Ce sont les principales raisons. Et alors, c'est intéressant aussi de s'interroger parmi les migrants qui veulent demander l'asile en France, 45% parce qu'ils aiment ce pays.
45% de moins de 8%.
Oui, moins de 8%. Oui. 45%, donc toujours de ces 7,5%, parce qu'ils pensent correspondre aux critères pour l'obtenir. Alors ça, c'est quand même fort, surtout après ce que tu viens de dire... 58% qui ne veulent pas aller en CAES, 8% qui veulent y aller, et 8% ne savent pas ce que c'est. Alors, je précise quand même encore une fois que c'est 8% de ces 7,5% restants qui ne savent pas ce que c'est, parce que les autres...
Ça correspond à 2 ou 3 personnes, en fait, sur l'échantillon.
Voilà, c'est 2 ou 3 personnes sur l'échantillon, et parce que, de toute façon, la plupart des autres... sont passés par un centre à un moment donné, peut-être aussi.
Oui, et puis bien toujours avoir l'idée qu'à Calais, il y a deux choses qui se passent. D'abord, comme la plupart d'entre nous, hein, si on va à Calais, C'est pas forcément pour manger des huîtres ou aller voir le musée de la dentelle.
Ah non.
Quoique les huîtres, elles sont très belles, très bonnes, la dentelle aussi, et que les frites sur le porc, ça peut avoir un certain romantisme, mais c'est surtout pour passer en Grande-Bretagne.
Mais oui.
Et c'est pour ça qu'on passe à Calais. Calais n'a jamais, ou a très peu, été une ville où on s'arrêtait. Voilà, Steve.
Non, je voulais dire que effectivement, c'est une sorte de. On en arrive presque à se dire quand est-ce que ça va s'arrêter, puisque ça fait des années et tout, c'est un éternel recommencement. Et je voulais juste dire qu'effectivement, les Afghans qu'on rencontre au Ménil sont. C'est là où on voit les effets réels de tout ce que tu viens de décrire, ce harcèlement policier, ces conditions de vie inhumaines. C'est qu'ils sont dans un état de fatigue, de détresse morale, psychique. Il y a des séparations de famille parce que on a parlé du profil de ces Afghans. C'est souvent des jeunes hommes, mais qui sont souvent en famille, donc des frères. Et souvent, nous, on a le grand frère avec l'adolescent de 15 ans qui se retrouve tout seul. Enfin, c'est tout ça. Ça provoque des vrais effets tragiques sur des vies humaines. Et au-delà de, on met des petits pansements et tous les ans, on recommence. Il faudrait effectivement changer complètement de paradigme et de politique. Voilà.
Ah bah comme Madame Bouchard, donc la maire de Calais, a fait dire par son avocat au Conseil d'État en juillet ou août, je ne sais plus, juillet je crois. Donc c'est son avocat qui dit ça. Natacha Bouchard a tout essayé dans la plus grande humanité possible et ça a toujours été un échec. Donc, pas de point de fixation. Oui, ça a toujours été un échec. Elle a tout essayé, je ne suis pas sûr. Et la plus grande humanité, bon, elle reste même plus. Ça reste même plus à prouver. Il n'y a pas d'humanité du tout. Et ce qu'on peut en déduire, quand même, parce que bon, il faut aussi en parler, c'est que il n'y a jamais personne qui a essayé simplement l'ouverture des frontières. Et peut-être que ça pourrait marcher, mais il faudrait le tester.
Ou plutôt, il y a eu toute une période où les frontières étaient ouvertes.
Oui.
et où il n'y avait pas, de sans-guette, il y avait pas tout fonctionnait comme il fallait. Je veux dire, on voit très bien, même expérimentalement, on a fait l'expérience d'une frontière ouverte.
Oui. Bah bon, on pourrait la voir un peu plus ouverte quand même.
Oui. Et donc, là, on me fait signe, hein, je vois que les oreilles loin du front s'installent dans le studio, donc excellente émission, donc il faut qu'on aille un petit peu vite. Les conditions, tu disais, il n'y a pas de conditions, donc c'est une très profonde dégradation. Il y a eu toute une période, hein, ça on avait un petit peu parlé, où on installait des douches, où on essayait de faire des choses, mais les militants étaient poursuivis, les exilés étaient poursuivis, on profitait de la douche pour arrêter les gens qui se planquent actuellement dans les bois.
Oui.
Et... alors là, je viens d'apprendre qu'il y a une vingtaine de douches qui avaient été réinstallées.
Oui, alors pour reprendre ce que tu disais sur les arrestations au moment des douches, ça c'était, je me souviens plus, je crois que c'était un peu avant l'été. Effectivement, il y avait des douches installées dans le cadre du secours catholique, dans la cour du secours catholique, et les forces de l'ordre venaient directement interpeller les gens qui venaient prendre leur douche. Oui. Là, on a installé quelques toilettes, quelques douches. Je suis pas au point sur ça du tout en ce moment parce que ça change toujours et on joue au chat et à la souris pour avoir de l'eau et enfin une douche et des toilettes. Mais à côté de ça, la situation, elle évolue pas et je pense qu'on essaie de nous faire tenir avec ça, de nous faire rager sur ça, de nous faire réagir sur ça et ça nous prend un temps fou. Et pendant ce temps-là, on réclame pas autre chose. Et du coup, moi, j'ai préféré avoir un peu... alors, c'est important, hein, je ne dis pas que ce n'est pas important, attention, mais j'essaie d'avoir un peu l'œil à autre chose, justement, en ce moment, plutôt qu'à rester figé sur cette histoire de douche et de toilette.
Oui, non, c'est évidemment que les douches et les toilettes, c'est important.
C'est important, bien sûr.
Et que tu as tout le côté politique qui sous-tend tout ça, qui est essentiel.
Oui.
Et qu'en plus, ça on n'en a pas parlé avant l'émission, mais tu es infirmier, je crois,
oui.
Et que tu peux voir beaucoup de pathologies qui sont liées à la vie, à cette vie.
Alors pas moi particulièrement, parce que je travaille dans un service de cancérologie, donc ça n'a rien à voir. Mais effectivement, oui, j'ai des collègues qui... Bon, on en parle avec des collègues. Et... Alors un peu moins en ce moment, je dirais. Mais il y a eu une époque aussi, pareil, un peu avant le démantèlement, oui, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exilés hospitalisés. Oui, oui.
Voilà, Steve, peut-être tu veux réagir sur ce qui vient d'être dit avant qu'on conclue.
Sur le, non, une remarque sur les douches. Je comprends très bien le fait de dire je préfère ne pas perdre de vue le contexte global qui reste important, mais je crois quand même ces douches dont tu nous parles, c'est une installation forcée, c'est-à-dire que ce sont des militants, des associations qui ont dû saisir la justice pour qu'il y ait des...
Oui.
Voilà, c'était pas...
Oui, oui, voilà. Alors oui, tribunal administratif et Conseil d'État au mois de juillet, d'où la citation de l'avocat de Madame Bouchard que j'ai citée tout à l'heure. Voilà, c'est... Oui, oui, bien sûr, ça fait l'objet de plusieurs procès. Et malgré la décision du Conseil d'État, ça a toujours fait l'objet aussi d'un refus catégorique de la mairie de Calais de faire quelque chose.
Voilà. Eh bien, donc on va peut-être passer maintenant très rapidement à notre agenda, hein, parce que 1 heure, ça va trop vite.